Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que la littérature doit dire la vérité et la fiction n'être que mensonge ? Sans doute pas, à en croire nos invités aujourd'hui, qui l'un et l'autre ont choisi d'écrire entre ces deux mondes, réalité et imagination. Ainsi, en fin d'émission, nous retrouverons l'écrivain Mia Couteau, dont le nouveau roman « Le cartographe des absents », où il revient sur la ville natale de son enfance au Mozambique, est sans doute, derrière la reconstruction narrative, l'un de ses plus personnels et intimes, comme il l'a confié au micro de Sébastien Gédor. Mais pour commencer, j'accueille un auteur qui, lui aussi, en préambule de son 12e livre et premier roman, revendique son pas de côté avec la vérité. Dans une société où triomphe le faux, où depuis plusieurs années, le journaliste et éditeur qu'il a longtemps été a pris le parti du silence et du retrait, il a décidé d'écrire une fausse autobiographie où toutes les histoires sont vraies. Bonjour Guy Birenbaum.
Bonjour, merci de me recevoir.
« Toutes les histoires sont vraies » est ainsi le titre de votre ouvrage publié aux éditions Braquage, qui en une centaine de scènes, à la fois thématisées et en même temps sans stricte chronologie, propose des morceaux de vie, comme des pièces de puzzle, qui à la fin composent un tableau, un portrait, celui d'un homme, d'un pays, d'un âge à l'autre, d'une époque à l'autre. Avec comme fil conducteur de ces instantanés, des photos justement. Celle qui ouvre le récit en 1962, où l'on voit une femme, Toba, un petit garçon Alain et un bébé qui posent dans la rue. Et celle en 2022 qui referme le livre. Une photo d'un couple, Toba encore et Robert. Est-ce que l'écriture de ce livre, Guy Birenbaum, est née de toutes ces photos, en effet, que vous avez prises ou que l'on vous a données ?
Vous avez tout à fait raison, parce que l'écriture de ce livre, elle est partie d'un réseau social qui s'appelle Instagram. En fait, j'ai commencé à raconter depuis un an et demi, deux ans, des histoires, comme ça, sans début forcément, sans fin, avec des photos, soit des photos que je prenais, soit des photos qu'effectivement on m'avait données et que j'avais retrouvées dans les albums familiaux. Et j'ai reçu énormément de messages de lecteurs qui me disaient, soit dans les commentaires, soit en privé, « Mais il faut l'écrire, ce livre !» Et moi, je n'avais pas du tout pensé à écrire un livre, en fait. Je n'avais pas du tout pensé que c'était quelque chose qui pouvait s'apparenter à de la littérature. Et poussé par les lecteurs, vraiment, et ça s'est vraiment passé comme ça, je me suis dit « Bon, on va le faire alors. » Donc, vous avez raison, ça part de photos.
Est-ce que vous n'aviez pas envie d'écrire un livre aussi parce que, finalement, vous faites plus confiance aux images qu'aux mots, et qu'en d'autres termes, les photos mentent moins que les romans ?
On peut faire mentir malheureusement avec Photoshop, et puis on a vu du temps de Staline qu'il n'y avait pas besoin de Photoshop pour faire mentir les images. C'est vrai que les images, a priori, elles mentent moins. Mais le vrai point de départ, ce sont ces gens qui me poussent à écrire, et ce que je revendique aussi, ce discours que vous avez évoqué en début d'émission sur la vérité. Parce que je crois que les professions que j'ai exercées sont totalement dévalorisées. J'ai été universitaire pendant longtemps. Plus personne ne croit à la parole d'un universitaire. Il n'y a que des experts sur les plateaux de télévision dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent ni ce qu'ils viennent y faire. Le journalisme, la crédibilité des journalistes, malheureusement, n'a jamais été autant mise en cause. On est dans un espace où le vrai, plus personne n'y croit. Alors je me suis dit, puisque plus personne ne croit au vrai, mes petits amis, moi, je vais vous dire que j'écris un roman et puis vous allez vous débrouiller avec ça.
Alors revenons à ce livre, en effet, toutes les histoires sont vraies, puisqu'ici, Guy Birenbaum, vous vous prêtez au jeu de « Je me souviens » à la Georges Perec, mais dans un jeu avec le temps et l'espace que vous réorganisez. Ce n'est plus le fil linéaire de votre existence, mais ce sont des scènes dont vous avez été témoin ou acteur, que vous recomposez donc via une géographie, une cartographie qui s'élargit. D'abord, nous sommes rue de Sèvres, à Paris, c'est l'enfance, le temps du lycée. Et puis Deauville, Trouville, l'adolescence, en Normandie, le premier job comme prof de tennis. Ailleurs, les brèves rencontres et ses vies au pluriel de chercheurs, d'enseignants, de journalistes, d'éditeurs. Comment sont remontés tous ces souvenirs ? Pas dans cet ordre, j'imagine. Est-ce que vous aviez pris des notes depuis longtemps ?
Strictement rien. Et donc, en fait, j'ai découvert que la mémoire est un muscle exceptionnel. Alors, bien sûr, moi, j'ai jamais arrêté d'écrire, puisque j'ai des blogs depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, mais j'avais jamais écrit directement les histoires qui sont racontées là. Et donc, plus je recherchais dans ma mémoire des événements qui pouvaient donner lieu à des histoires intéressantes, plus je me suis rendu compte qu'elles revenaient. Et d'ailleurs, depuis que ce livre est sorti, d'autres sont revenus. Donc, c'est très étonnant le processus par lequel... je ne sais pas si c'est péricien, je n'aurais pas cette prétention en tout cas, mais c'est vrai, ça revient, ça remonte, et effectivement la cartographie, la topographie, la géographie sont sans doute, avec la musique, les meilleures manières de faire revenir à la surface des choses qu'on pensait avoir totalement occultées ou oubliées. Il suffit, moi, que j'entende trois notes d'une chanson, et je peux me souvenir très précisément d'une scène, du début jusqu'à la fin de la scène. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais en tout cas, non, j'avais aucune note.
C'est quoi une scène intéressante ? Et là, je m'adresse presque plus à l'éditeur.
Une scène intéressante, c'est une scène universelle. C'est-à-dire que l'histoire particulière en tant que telle qui m'arrive à moi, elle n'est pas intéressante. En revanche, si cette histoire va projeter le lecteur dans sa propre histoire à lui, le faire réfléchir, le faire rêver, le faire pleurer, le faire rire, bah c'est réussi. Donc les histoires intéressantes, ce sont des histoires vraies et universelles. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais c'est ce que j'ai essayé de faire.
Et toujours avec ce parti pris, Guy Birenbaum, de ne jamais utiliser le « je », la première personne du singulier, pas de prénom, c'est toujours « il ».
Oui.
Pourquoi ?
Alors, d'abord parce que j'ai passé ma vie à dire « je » et que j'en avais par-dessus la tête. C'était mon métier d'aller sur des plateaux et de dire « je ». Finito, c'est comme ça, j'ai décidé que c'était terminé. Deuxièmement, je n'aurais jamais pu écrire ce livre à la première personne parce que je me serais senti impudique, pas à ma place. Et je pense que le « il » permet de se mettre à distance de la personne dont je parlais.
Une mise à distance et puis aussi une façon de reconnaître que la mémoire n'est jamais vraiment fiable, bien de sûr. Toute façon. Et que ces sensations que vous restituez ici, des sensations d'enfant, d'adolescence, les angoisses, les maux de ventre, les timidités, les déceptions, des étonnements, des grands moments de solitude aussi.
Oui.
Finalement, on a tous connu ça à un moment ou à un autre.
C'est en ça que le « il » permet aussi probablement au lecteur qui a, comme moi, connu tout ce que vous venez de décrire, de l'angoisse au moment de solitude en passant par le bonheur, parce qu'il y a aussi des moments heureux. Probablement que si je disais « je pense qu'il ne pourrait pas s'identifier de la même manière. Et que essayer d'emmener les gens vers l'universel et d'essayer de les emmener vers leur propre histoire, leurs propres souvenirs, leur propre mémoire, leur propre identité, leurs propres angoisses aussi, je crois que c'était la meilleure manière de le faire que d'utiliser ce « il ». En tout cas, si je ne l'avais pas utilisé, ce livre n'existerait pas.
Alors, il y a beaucoup de pudeur, de retenue, avec des scènes d'ailleurs qui ne sont pas forcément à la gloire du personnage.
Oui.
Beaucoup de facéties, des blagues,
oui.
De potage. D'où vient ce tempérament facétieux, donc, Guy Birenbaum ?
Je ne sais pas, en fait. C'est vrai que tout petit, déjà, je faisais énormément l'idiot. Ça commence très tôt, puisqu'en 1968, sur le balcon de l'appartement de la rue de Sèvres, on est en plein au milieu des événements, puisque c'est le quartier de Latin, pour ceux qui ne connaissent pas la capitale, on est au métro du Roc, et donc les manifs passent, les CRS, et bon, il y a des CRS qui passent dans la rue, je sors avec une pancarte, j'ai pris un papier tout blanc, il n'y a rien écrit dessus, et je crie CRS SS sur le balcon. Truc que j'ai entendu très probablement dans la radio de la maison ou sur le gros poste de télévision. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, bien évidemment. Surtout que ma grand-mère me fait rentrer précipitamment. Et heureusement, ma grand-mère n'a probablement ni compris ni entendu ce que je disais parce qu'elle, les SS, elle savait très bien ce que c'était, puisqu'elle a vécu cachée entre 1942 et 1944 dans un immeuble à Paris pour fuir la police française et les soldats allemands. Et en fait, c'est pas une facétie, mais c'est quand même un peu une facétie. C'est peut-être une manière de tromper la mort. Même si j'ai aucune idée, puisque c'est parfaitement inconscient, puisqu'à ce moment-là, à 7 ans, j'ai pas très bien compris ce qui est arrivé à ma famille et comment on s'en est sorti. Ils s'en sont sortis par miracle. Alors il y a plein de passages comme ça où probablement c'est entre la facétie et le désespoir.
Alors justement, je m'arrête une seconde avec vous, puisque en effet, entre les lignes, vous revenez sur l'histoire familiale que vous aviez déjà abordée, Guy Birenbaum, dans votre livre précédent, Une dépression française, vous m'avez manqué, où là, vous racontiez comment votre mère, cachée à Paris pendant la guerre avec sa famille, dans quelques mètres carrés, par une concierge, un couple qui deviendra...
C'était pas la concierge, c'était des locataires de la maison. Il y a aussi la concierge qui joue un rôle, mais pour le coup, c'était la famille d'Inanceau qui habitait dans l'immeuble.
Par des Français qui deviendront des justes, et puis votre mère qui va rencontrer à la Libération votre père, qui lui est résistant. Est-ce que justement, quand on est dans une famille avec une histoire aussi belle, une histoire vraie, et tragique, finalement, ça n'empêche pas toute écriture romanesque derrière.
Non, je crois pas, parce que en vérité, on sait pas tout. D'ailleurs, je dis en vérité, donc c'est amusant d'avoir commencé par ça, parce que justement, il n'y a pas de vérité. Mes parents ont témoigné. Alors, ils ont témoigné pour la fondation de Steven Spielberg, qui a fait un énorme travail d'archives et qui a interviewé un nombre absolument considérable dans le monde entier de rescapés de la Shoah. Mais le témoignage de ma mère, qui est une vidéo qui fait environ 45 minutes ou 50 minutes, et le témoignage de mon père, qui fait une quarantaine de minutes, ne sont que des témoignages. Et sur certains faits, probablement que ça ne s'est pas passé exactement comme ma mère l'a raconté à la fin des années 90, c'est-à-dire 50 ans après ce qu'elle a vécu, même si c'était totalement inscrit et terriblement inscrit dans sa chair, puisqu'elle ne s'en est jamais remise. Jamais. Et que moi, j'ai vu ma mère petit à petit se laisser aller à la dépression sans jamais vouloir se soigner, sans jamais vouloir suivre le moindre traitement. Donc, c'était cette histoire qui était remontée. Donc, je pense qu'elle avait des souvenirs extrêmement précis, extrêmement vivaces, mais que sur certains points, il y avait très certainement des zones de flou, surtout qu'elle avait entre 13 et 15 ans. Donc, on revient à la question qu'on posait tout à l'heure sur ma propre mémoire à moi, c'est-à-dire que les souvenirs du petit garçon de 8 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, ils sont peut-être là aussi légèrement réécrits, légèrement reconstruits. Donc non, ça n'interdit pas une histoire si belle, si tragique, si terrible, n'interdit pas, à mon avis, le romanesque, parce que si nous ne parlons pas, si nous ne racontons plus, je pense qu'on va perdre ce récit.
Dans ce récit composé, recomposé, on vous voit donc traverser plusieurs décennies. Donc c'est aussi la France que l'on retrouve sous votre plume, les différentes marques de voitures, les différentes modes, comment on se comportait, comment on était jeune à une certaine époque. Est-ce qu'il y a un moment de nostalgie dans l'écriture du livre, quand on s'en retourne et finalement, justement avec ce filtre, peut-être de la mémoire, on ne voit plus que des choses qui nous manquent ou pas.
Bah oui, évidemment, je suis nostalgique, mélancolique, oui, bien sûr. Mais je dis pas c'était mieux avant, c'était autrement. Alors par exemple, voilà, on a nos smartphones, il fallait aller dans une cabine téléphonique, il fallait avoir de la monnaie avant que les cartes existent. Donc tout ça, j'ai envie aussi de le raconter aux plus jeunes pour qu'ils comprennent ce que c'était qu'un vidéoclub. Expliquer, mes filles, elles m'ont regardé comme si je... Même si la plus vieille a vaguement connu un des derniers vidéoclubs qui existait. Le couteau électrique Seb orange à deux lames de mes grands-mères pour décapiter...
La truite.
La carpe.
La carpe, pardon.
Sacrilège. La truite farcie. Non, la carpe farcie. Voilà, je crois, et là aussi, c'est peut-être un peu péréquien, encore une fois, sans ostentation, je crois aux objets, je crois aux choses. Et je crois que c'est vraiment à travers ces descriptions extrêmement précises. Alors je me suis donné du mal pour vraiment être au plus près de ce dont je me souvenais, qu'on va pouvoir faire passer à ceux qui ont connu la période les mêmes émotions que les miennes, et à ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une cabine téléphonique, bah, de se rendre compte que c'est bien pratique aujourd'hui d'avoir un smartphone dans la poche, mais que dans le temps, bah, on vivait les choses très différemment. Par exemple, il m'est arrivé de devoir sortir quelqu'un de force d'une cabine parce que je voulais absolument téléphoner. Et on a tous fait ça. Parce qu'on attendait un coup de fil dans cette cabine, puisqu'on pouvait donner le numéro de téléphone de la cabine pour qu'elle soit appelée. Donc autant de choses qui ont disparu, et dont je ne dis pas qu'elles étaient mieux, mais c'était autrement. On savait s'ennuyer surtout. On avait le temps de s'ennuyer. Maintenant, on ne peut pas s'ennuyer. Quand vous regardez les gens qui font la queue autour de nous, tout le monde a la tête, c'est la tribu des têtes baissées que j'avais inventée dans mon livre dont vous parliez tout à l'heure, Vous m'avez manqué. Les gens ont tous la tête baissée, ils marchent dans la rue la tête baissée. Bah, à l'époque, on n'avait pas la tête baissée, on regardait le ciel, on regardait autour de nous. Donc il y a toutes ces choses, je ne dis pas qu'elles étaient mieux, je dis qu'elles étaient autrement. Voilà.
Est-ce que de fait, il y a des histoires ici, Guy Birenbaum, que vous racontez pour la toute première fois, oui, que vous n'avez même pas dites à votre entourage proche?
Oui. Mais vous savez, j'ai une façon de communiquer parfois avec mon entourage proche qui fait qu'il vaut mieux que j'écrive un livre parfois pour qu'il découvre un certain nombre de choses. Je ne sais pas si c'est de la pudeur ou de la bêtise, mais je suis beaucoup plus à l'aise une fois que c'est écrit. Et donc, je donne le manuscrit, par exemple, de 250 pages à ma femme et je pense qu'elle a quelques surprises.
Donc ça veut dire que l'écriture est aussi un moyen justement pour approcher une vérité qui ne peut pas être dite autrement.
Mais j'ai été élevé un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas vraiment complètement raconté ce qui s'était passé. Et heureusement que Steven Spielberg a interviewé mes parents parce que ça les a amenés ensuite à écrire ces témoignages qui sont... L'écriture était vraiment la stricte recension de ce qui figure dans les vidéos. Mais jamais on ne nous avait expliqué les choses comme les équipes de Spielberg ont réussi à les faire raconter à mes parents. Donc en fait, je pense que venant de cet héritage-là, moi j'ai probablement besoin aussi... Alors j'ai longtemps parlé dans un micro, c'est sans doute pas un hasard. J'ai longtemps voulu être reconnu, vu, connu. C'est sans doute pas un hasard quand votre maman a été cachée. Alors, c'est de la psychologie de bazar, mais j'ai suffisamment travaillé sur ce sujet pour avoir le sentiment de ne pas me tromper. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, je préfère écrire ce que je pense et le balancer à mes proches de façon à ce qu'ils le sachent.
Quelle est la scène qui vous a le plus amusé quand vous l'avez écrite et quand elle est revenue en mémoire? Dans toutes les histoires sont vraies.
Oh bah c'est évidemment le must absolu. C'est imaginez, donc vous êtes lycéen et vos copains viennent passer l'après-midi à la maison et ils vont se laver les mains dans la salle de bain. Et là, qu'est-ce qu'ils trouvent dans la baignoire? Une carpe vivante.
La fameuse.
La fameuse. Parce que mes grands-mères allaient au Bon Marché, donc dans le 7e arrondissement de Paris. Quand elle faisait la carpe farcie rituelle, absolument pas de manière religieuse, qu'on n'est absolument pas une famille religieuse, mais de temps en temps, il fallait faire une carpe farcie. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment dégoûtant. Je m'excuse auprès de tous ceux de nos auditeurs qui aiment la carpe farcie. Et donc, mes copains arrivaient dans la salle de bain et trouvaient une carpe, et il fallait que je leur explique pourquoi il y avait une carpe. Parce que ça durait 2 jours, cette affaire. Et qu'il fallait quand même, comme je le raconte, pour faire ses ablutions, prendre son petit bain, sa petite douche, la sortir, la mettre dans une cuvette, rincer la baignoire. Puis ensuite, remettre la carpe dans la baignoire. Donc ça les étonnait. Ça, je dois dire que je revois leur tête, oui.
Donc la littérature, c'est aussi un lieu de jubilation, de grand rire. Il y a un côté petit Nicolas aussi dans ce livre.
Écoutez, vous ne pouvez pas me faire un plus beau compliment parce que honnêtement, entre le petit Nicolas, c'est tellement incroyable, tellement drôle, tellement bien vu, j'ai pas cette prétention, mais disons que oui, le héros, c'est un petit garçon, dans la phase jeune, c'est quand même un petit garçon un peu déluré, mais très très peureux, très très angoissé, très très anxieux, parce qu'il a récupéré toute l'anxiété, toute l'angoisse de sa mère et de sa grand-mère, et qu'on l'empêche Moi, j'avais pas le droit de sortir à plus de 100 mètres de chez moi. Hein. J'étais accompagné tout le temps, où que je sois, quoi qu'il arrive. Et donc, il a fallu sortir de cette gang, de ce carcan. Et on comprend bien ce carcan quand on sait ce qu'elles ont vécu. Mais ça a été quand même très, très pesant, très, très lourd. Et il y a ce truc très drôle quand même où j'apprends à faire du vélo à un âge où j'aurais déjà quasiment dû conduire une voiture, mais on m'avait jamais laissé. Et j'avais pas compris pourquoi. En écrivant le livre, j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'il fallait pas que je m'éloigne.
Pour finir, Guy Birenbaum, la microfiction, l'éclatement du récit, est-ce que c'est à l'image de notre société ou au contraire c'est en résistance avec le mensonge au long cours ?
Ah, pour moi, c'est un vrai acte de résistance sur ce que vous appelez très justement et très joliment le mensonge au long cours qui nous a totalement envahis. Et je pense que c'est une forme littéraire qui permet véritablement de remettre l'église au milieu du village. C'est drôle de dire ça pour moi, ou la synagogue au milieu de l'endroit où elle doit être. Voilà, je pense que pour moi, c'est la forme la plus précise, la plus juste. Et le mot juste, je ne l'emploie pas au hasard.
Évidemment. On va se quitter avec une chanson, puisque vous nous proposez une playlist de 68 titres.
Oui.
Je les ai comptés. Ça va de Nicole Croisy et Pierre Barou, Un homme et une femme, jusqu'à Claude Bertrand, Jean Stout et Pascal Bressy, qui ont composé la chanson du film Le Livre de la Jungle, Il en faut peu pour être heureux. Qu'est-ce que vous choisissez parmi ces nombreux titres ?
Ah bah, Un homme et une femme, évidemment.
Un homme et une femme. Deauville, la Normandie, une voiture.
Une Ford Mustang, s'il vous plaît.
Une Ford Mustang.
Soyons précis.
Et c'est que du bonheur. Merci beaucoup, Guy
Birenbaum. C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Je rappelle le titre de votre livre, Toutes les histoires sont vraies, paru aux éditions Braquage. Et ça aussi, c'est vrai. Merci. Et nous poursuivons notre émission sur ce thème de la fausse autobiographie et du vrai roman avec l'écrivain du Mozambique, Mia Couto, auteur du livre « Le cartographe des absences » aux éditions Métellier, que Sébastien Gédor a rencontré.
Miyakuto, ma première question est assez simple. Est-ce que vous êtes, vous aussi, un cartographe des absences? Ou pour le dire autrement, est-ce que c'est votre livre le plus autobiographique?
Sim, é o meu livro mais autobiográfico. Eu acho que nunca antes eu.
Oui, c'est mon livre le plus autobiographique. Je n'avais jamais pensé que ma vie pourrait devenir le sujet d'un livre. Mais j'ai compris que c'était le moment de raconter mon histoire et celle de mon pays.
Estaria também contando a história do meu país.
Miyakuto, quel souvenir vous gardez de votre enfance? Je ne parle pas du personnage du livre, je parle de vous, de votre enfance.
Bon, minha infância foi tão feliz, tão intensa que.
Mon enfance a été si heureuse et si intense que j'ai l'impression que tous mes souvenirs ont été inventés.
Isso ajuda a fazer um livro.
Ça aide à faire un livre parce que je n'ai pas de problème de mémoire.
O rigor da memória.
Et votre père, alors, parce qu'il y a un personnage de père qui est très important dans le livre. Oui. Votre père, je ne vais pas vous demander quels souvenirs vous en gardez, mais qu'est-ce qui vous a transmis?
Okay. No princípio, quando eu comecei
Au début, quand j'ai commencé à écrire, je pensais que j'allais écrire sur ma ville, Beira. C'était ça mon intention.
Et comecei a visitar os lugares da minha infância, as casas várias onde
Donc, je suis retourné dans les maisons où j'avais vécu. Je suis allé dans toutes les rues que je connaissais. Et quand j'ai rendu la première version à mon éditeur, il m'a dit que j'avais célébré les lieux de mon enfance.
Esta é uma celebração do seu lugar de infância.
E quando eu mostrei essa versão a meus frères, eux ont répondu que tout était mensonger.
Disseram, é tudo mentira o que está aqui. Eu disse, não, mas a literatura não
quer dizer essa verdade. Que la littérature n'a pas pour mission de dire la vérité.
E de qualquer maneira eu voltei à cidade, à minha cidade.
Donc je suis retourné dans ma ville natale et j'ai compris que le plus important ce n'était pas les lieux, mais les sentiments liés aux lieux. Et là, mon père est apparu.
Nós tínhamos uma ideia.
Dans ma famille, on croyait qu'on avait eu un père absent, mais en fait, ce n'était pas vrai. Donc, il a fallu que j'arrive à l'âge de 60 ans pour prendre conscience des leçons que mon père nous avait laissées.
Pour perceber algumas das grandes lições que ele deixou.
Et justement, quelles leçons il a laissé votre père? Qu'est-ce qu'il vous a transmis comme valeur, j'allais dire même politique?
Sim. Bon, il a à voir avec les ausências.
C'est sa capacité à voir les absents, ceux qui ne sont pas là ou qui sont invisibilisés, comme la population noire.
Era, por exemplo, a população negra. E a importância, por exemplo, de ser gentil.
Et aussi l'importance de la gentillesse, de la cordialité. Pour lui, ce n'était pas une obligation, mais il le faisait naturellement et nous montrait l'exemple.
Nunca ele nos disse, venham cá, que eu vou vous montrer como é que se faz.
Est-ce que, comme certains personnages du livre, vous êtes désillusionné?
Désillusionné, non. Eu percebo que
aujourd'hui, non, mais à l'époque, je me rends compte que je me faisais des illusions.
Ce projet d'une certaine utopie.
Parce que quand on a un projet politique comme le mien de changer le monde, on a la tentation de simplifier les choses.
Et justement, les poètes comme vous, ils sont là pour apporter de la nuance. On voit que dans ce livre, il y a beaucoup de nuances. Il y a les nuances des couleurs de peau, il y a les nuances politiques. Donc le poète apporte de la nuance, justement.
Sim. Eu acho que a poesia nos ensina a ver
la poésie nous apprend à voir cette complexité du monde sans avoir peur.
De que não compreendemos tudo.
Le livre Le cartographe des absences prend la forme d'un journal avec plusieurs époques. Est-ce que vous avez déjà l'idée de le construire comme ça au départ ou alors ce sont des personnages qui vous guident peut-être que vous agencez Sim. après?
Non, sont de facto personnages qui me guident.
Il y a des personnages qui me guident dans mon écriture, mais depuis toujours, dans mon travail, il y a cette constance de multiplier les voix, de faire une œuvre polyphonique.
Fazer um texto que seja polifônico. Quando eu começo livro, eu não sei a história ainda, não quero saber.
Quand je commence une histoire, je ne sais pas ce que je vais raconter, mais petit à petit, les personnages deviennent mes guides pour écrire.
Pela primeira vez na minha vida, este livro que eu estou a escrever agora.
Pour la première fois dans un de mes livres, pas le cartographe des absences, mais celui que je suis en train d'écrire maintenant et qui n'est pas encore sorti, je sais comment l'histoire va se dérouler.
Et en attendant cette prochaine histoire, à découvrir Le cartographe des absences de Miyakuto aux éditions Métellier.
Littérature sans frontières.